Ireland. Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Από το βράδος το πρωί με πρέζαστικο στη ζωή.
Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui la série de reportages de Simon Rico consacrée aux réfugiés bloqués aux frontières. Après le camp d'Idoménie et les quatre autres centres d'accueil ouverts au nord de la Grèce, nous nous rendons aujourd'hui à Kozani, capitale de la région grecque de Macédoine occidentale. Un camp de fortune est ouvert depuis un mois dans cette ville située sur la route entre Athènes et Idoménie. C'est un coup du hasard qui a provoqué l'ouverture de ce centre et aujourd'hui, la ville doit se débrouiller sans aucune aide. Simon Rico sur place.
Les pas et les bruits de ballons résonnent sur le parquet. Des cris parviennent des tribunes. Mais il n'y a ni joueurs ni spectateurs dans le gymnase de Kozani qui accueille d'ordinaire les matchs de l'Alpha Makedonikos, l'équipe de basket de la ville. À la place, il y a 500 réfugiés qui attendent une hypothétique réouverture de la route des Balkans, certains depuis plus d'un mois. Adil étudiait la littérature anglaise à l'université de Damas. Il a fui la Syrie pour échapper au service militaire et ne pas avoir à servir l'armée de Bachar al-Assad.
Je ne suis pas prêt à rester ici, j'y suis tout simplement forcé. Je n'ai aucun autre choix, je ne peux pas repartir en arrière. Et où irais-je si je retournais en Syrie? J'ai des amis et de la famille ici, nous venons tous de la même banlieue de Damas. Nous ne pouvons rien faire là-bas depuis 3 ans et demi, c'est une zone interdite, il y a d'intenses combats. Nous sommes donc obligés de rester ici, évidemment.
Kozani, la préfecture de la Macédoine occidentale, n'est pas un point stratégique sur la route des réfugiés. Aucun d'entre eux ne s'était d'ailleurs aventuré ici avant le 22 février dernier. Ce soir-là, le téléphone du maire écologiste se met à sonner. C'est la police qui lui annonce que 3 bus sont bloqués sur une aire d'autoroute non loin de la ville. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au camp d'Idoménie, leur destination finale, à cause d'un barrage de paysans en colère contre la réforme des retraites que veut faire voter le gouvernement Syriza. Ni une ni deux, Eleftherios Ioannidis mobilise ses équipes et ouvre en urgence le gymnase de la ville. Giannis Costarellas est le responsable de la communication à la mairie.
En une heure, nous avons d'abord fait parvenir de la nourriture à la station-service où les bus se trouvaient. Puis au bout de 2 heures, avec l'équipe municipale, nous avons décidé d'ouvrir notre nouveau gymnase et d'y installer ces réfugiés. Il était inconcevable pour nous de les laisser dormir dans les bus ou même dehors. Au début, ça ne devait durer qu'une seule nuit, mais à cause de la situation, nous avons dû nous adapter.
Depuis, le camp de Kozani s'organise uniquement grâce au soutien des volontaires locaux. La municipalité ne reçoit aucune aide extérieure, ni du gouvernement, ni du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, ni des ONG déployées en Grèce. Tous les jours, les bénévoles se relaient pour préparer et distribuer les repas, acheminer et ranger les produits donnés par les habitants, nettoyer les lieux. Des infirmières et des médecins assurent des permanences en dehors de leurs heures de travail. Les réfugiés participent aussi à la bonne tenue du camp, vêtus de gilets jaunes sur lesquels ils ont inscrit au feutre noir « J'aime la Grèce ». Léandris est grec, il étudie à Kozani. Aujourd'hui, il aide à la cuisine.
Je suis moi-même un immigré, je viens d'Albanie. Cela fait à peu près 20 ans que j'habite en Grèce. Quand j'ai vu ces réfugiés, ça m'a rappelé notre arrivée avec mes parents. Les premiers jours, la situation était un peu compliquée, nous manquions de volontaires. Nous sommes venus une fois, puis une autre. Nous faisons tout notre possible pour aider.
Fin février, la Macédoine laissait encore quelques réfugiés passer au compte-gouttes. Alors, les premiers qui sont arrivés dans le gymnase de Kozani se sont rapidement remis en route vers Idoménie avec l'espoir de passer. Depuis la fermeture totale de la frontière le 8 mars et les conditions de vie indécentes qui règnent là-bas, certains ont préféré rebrousser chemin vers les camps en dur autour de Thessalonique, tandis que d'autres sont revenus à Kozani. Aujourd'hui, réfugiés et volontaires sont plongés dans l'incertitude la plus totale. Giannis Costarellas ne cache pas son inquiétude.
Nous n'avons aucune idée de combien de temps tout cela va durer, ni de ce que nous allons bien faire. Si ces gens doivent rester longtemps, il va falloir que nous nous organisions différemment, parce que pour l'instant, il s'agit d'une situation d'urgence. Nous évitons juste qu'ils dorment dehors. Nous attendons des ordres du gouvernement pour savoir comment faire au mieux avec eux.
En Grèce, la ville de Kozani est connue pour ses 2 centrales électriques au charbon qui fournissent environ 1/3 de l'électricité du pays. Avant, elles employaient 20 000 personnes. aujourd'hui moins de 7000 à cause de la crise. Au XXe siècle, la région a été éprouvée par les combats pendant les deux guerres mondiales puis la guerre civile de 46-49 et les gens s'en souviennent. Alors pour l'instant, leur solidarité est sans faille, mais pas sûr qu'elle puisse tenir encore longtemps, faute d'argent.
Hallo Leute und herzlich willkommen in mein erstes Videos für euch. Mein Name ist Firas Al-Shatir. Ich wohne hier in Berlin seit 2,5 Jahren und ich komme aus Syrien. Heute will ich für euch mein erstes Zuckerstückchen für euch zeigen.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors on l'entendait dans le reportage de Simon Rico, si les États européens ferment leurs frontières aux réfugiés, certains groupes de citoyens se montrent, eux, solidaires. Et après l'urgence de l'accueil, le dialogue se noue entre migrants et Européens, à l'initiative souvent des réfugiés eux-mêmes, surtout ceux qui sont arrivés en Europe depuis quelques temps déjà. Alors vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de cette vidéo qui fait le buzz ces dernières semaines.
Oui, sur son canapé berlinois, un jeune homme barbu, comme tous les hipsters de la ville, chemise blanche, veston, piercing à la lèvre, se présente. Il s'appelle Firas, a 24 ans, est syrien et habite à Berlin depuis maintenant 2 ans et demi. Avant d'arriver en Europe, il faisait des films quand il n'était pas en prison, justement parce qu'il faisait des films. Le ton est résolument humoristique et la démarche pédagogique. Firas nous explique pourquoi il est parti de Syrie et comment il se sent ici, en Europe, dans cette grande ville qu'est Berlin.
La vidéo intitulée « Qui sont les Allemands ?» veut aussi donner le point de vue des réfugiés sur leurs hôtes.
Le jeune homme se veut avant tout positif. Dans la vidéo, il reprend à son compte la démarche d'un jeune musulman au Canada qui avait fait déjà le tour du web et ému la planète avec sa vidéo. Debout dans la rue, bandeau sur les yeux, il interpellait les passants par le biais d'une pancarte où était inscrit « Je suis musulman, les gens me prennent pour un terroriste, je vous fais confiance, si vous aussi vous me faites confiance, faites-moi un câlin ». Firas a donc renouvelé cette expérience à Alexanderplatz, dans la capitale allemande, et après quelques minutes d'attente, magique, ça marche, les badauds s'approchent et Firas reçoit ses câlins.
Et d'ailleurs, cette vidéo de 3 minutes a été visionnée plus de 600 000 fois sur YouTube.
Fort de ce succès, le jeune Syrien a même mis en place, avec la complicité d'une agence berlinoise spécialisée, une plateforme vidéo pour accueillir justement les témoignages d'autres réfugiés syriens comme lui en Allemagne, principalement alimentée par ses propres productions. Zucker.org, sucre.org, questionne autant l'omniprésence des lapins dans les boutiques à Pâques que la passion immodérée des Allemands pour le bronzage. Il raille aussi les images de chatons qui lui volent tous ces likes sur les réseaux sociaux et donc son travail, une manière fine de répondre aux Allemands qui ont peur de l'arrivée des Syriens sur leur marché du travail.
Alors Firas Al-Shatir est ainsi devenu le plus reconnu des youtubeurs syriens en Allemagne, mais il n'est pas le premier.
C'est presque une star, il a fait le tour des plateaux télé. Mais non, ce n'est pas le premier. L'été dernier, 2 jeunes réfugiés syriens d'une 20aine d'années lançaient leur page German Lifestyle, GLS, style de vie allemand. Ils publient des vidéos pour comparer les habitudes allemandes aux habitudes syriennes, comment on se dit bonjour par exemple, comment on danse dans les clubs ou comment on réagit aux remarques racistes, le tout là aussi avec beaucoup d'humour. Leur page est suivie actuellement par plus de 60 000 personnes. Les deux garçons ne se connaissaient pas avant d'habiter en Allemagne. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux sur un autre groupe Facebook, Studieren in Deutschland, qui donne des conseils en arabe pour étudier en Allemagne.
Alors le monde universitaire qui justement s'organise, lui, pour accueillir les réfugiés.
Oui, enfin, l'Association des universités européennes a mis en place fin février sur Internet une carte interactive qui recense toutes les initiatives locales menées dans les universités, cours de langue, soutien financier pour les étudiants, postes de chercheurs à pourvoir ou encore outils de reconnaissance des formations et des diplômes. 100 d'initiatives en tout ont été répertoriées sur ce site.
Et cela fait suite à la création d'une plateforme de CV mise en place par la Commission européenne à l'automne.
Oui, Science for Refugee, plutôt avec le bon accent, c'est son nom. Cette plateforme permet aux universités qui le souhaitent de déposer des offres d'emploi et de stages à destination justement des réfugiés, étudiants ou chercheurs, qui veulent faire valoir leurs compétences en Europe. Une belle manière d'organiser l'intégration et de préparer l'avenir.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Une reconversion unique dans l'histoire de la presse. Le quotidien britannique The Independent, créé en 1986, a imprimé son dernier exemplaire papier le 26 mars dernier. Depuis, ce grand quotidien de gauche est édité uniquement sur le net. Un journal s'éteint, un autre s'éveille, Marie Billon.
C'est un au revoir traditionnel, tambouriné sur son bureau pour accompagner le départ d'un collègue. Sauf que cette fois, ce n'est pas à un autre journaliste que les employés de The Independent disaient adieu, c'est à la version papier de leur quotidien. Il faut dire que le journal allait très mal depuis plusieurs années. À l'apogée de son succès en 89, il vendait 420 000 exemplaires par jour. Ces derniers temps, il n'en vendait que 40 000. Mais The Independent avait une identité forte qu'il compte bien conserver dans sa version en ligne, celle d'un journal engagé qui propose de longs reportages et des investigations. Tout l'enjeu est donc désormais de garder son lectorat et surtout de le démultiplier sur le net. Et pour cela, la direction compte investir. La version écourtée de The Independent, AI, quotidien de quelques dizaines de pages avec des articles d'information courts et sans analyse, diffusé à plus de 270 000 exemplaires par jour, est en passe d'être vendu au groupe Johnson Press. Tout l'argent de la vente, estimé à 32 millions d'euros, devrait être réinvesti dans le site de The Independent. Dans son dernier éditorial, le journal s'auto-congratule, parlant de transition audacieuse et d'exemple à suivre. Malgré tout, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'équipe éditoriale. Parmi les 150 journalistes qui travaille pour The Independent, plusieurs seront licenciés, même si le nombre n'a pas encore été confirmé. Certains spécialistes se demandent aussi comment le journal pourra garder sa visibilité en désertant les kiosques. Les sites d'information indépendants ne fonctionnent que lorsqu'ils se démarquent véritablement du reste. The Independent devra donc encore être un peu plus indépendant pour survivre.
C'est un département français dans l'océan Indien, l'île de Mayotte. Avec sa double barrière de corail, le lagon de Mayotte est aujourd'hui un joyau menacé. La pression démographique, le manque de tri des déchets, l'érosion et donc l'envasement. L'île est confrontée à de nombreux défis alors qu'elle veut inscrire ce lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le reportage de Frédéric Lebel commence à Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte.
Ouais, mais en saison sèche, ici, il n'y a plus d'eau.
Les rues de Mayotte résonnent en permanence de cris d'enfants. Ici, la natalité a atteint des records. On estime que la population de l'île a été multipliée par 4 en 30 ans, sans compter la centaine de milliers de migrants clandestins.
Salam alaikum, ça va, Massa ?
À Kaweni, le quartier le plus peuplé de la ville de Mamoudzou, le plus défavorisé aussi, la gestion des eaux et des déchets n'a pas suivi. Julien Gauquelin, un jeune Français de métropole très investi dans son association Jeunes Kaweni Espoir, ne peut que constater les dégâts.
Là, c'est la rivière de Kaweni, on appelle ça Kaweni la Poste. Donc c'est que des eaux stagnantes tout le long, avec, on va trouver sur le bord de la rivière des animaux qui vont vivre au milieu de ces déchets-là. C'est de l'eau qui servira à laver le linge. Non, il y a des canettes, des bouts de plastique. Des fois, on peut même retrouver des machines à laver. Tu vois, tout ça, c'est... Vous voyez, là, on voit du tissu, on voit les sacs poubelles. En fait, la rivière, c'est ce qui sert de poubelle aujourd'hui parce qu'il y a un problème de collecte des déchets. Donc, les gens balancent dans les rivières. Alors que, les enfants qui se lavent dedans, là, il y a leur sœur qui lave le linge. Toutes ces eaux-là, c'est des eaux stagnantes. Hein. Donc ça veut dire les moustiques, ça veut dire toutes les bactéries là qui sont déposées ici. Et je vois cette insalubrité alors qu'on a beaucoup d'organismes ici qui sont présents sur un petit territoire. On a l'ARS, on a la DEAL, on a l'ADEME, on a la Chambre de commerce, on a la Chambre des métiers de l'agriculture, on a l'Office du tourisme. Donc à Mayotte aujourd'hui, par exemple, on nous parlait de tourisme, mais c'est pas envisagé. Je sais pas quel était votre premier ressenti en arrivant ici. Mais beaucoup posent le pied à Mayotte et se disent « Ah oui, c'est ça l'Eldorado !» On est vite déçus, quoi.
À quelques dizaines de kilomètres au sud de Mamoudzou, le paradis existe pourtant.
Je vais me rapprocher un petit peu plus du bord avec le bateau pour vous permettre de descendre avec le matériel.
On est loin de la ville et il faut prendre le bateau pour découvrir le troisième plus grand lagon du monde. Avec sa société Explo, Taz emmène régulièrement des clients en plongée à la découverte de ce lieu magique, hotspot de la biodiversité dans l'océan Indien, comme il aime l'expliquer.
L'année dernière, on a eu une vingtaine d'orques qui sont restés pendant 15 jours sur la zone. Je crois que c'est relativement unique dans la fréquentation, en tout cas pour l'île. Après, chaque année, vous avez la saison des baleines, où les baleines viennent sur la zone s'abriter du mauvais temps pour faire leur progéniture. Après, sur l'ensemble du lagon, vous avez de nombreuses espèces de dauphins qui sont réunies, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du lagon. Après, il y a les raies-mantas, en requin, on a quasiment toutes les espèces qui sont représentées aussi. S'il y a un peu trop, je te passe l'encre.
Mais aujourd'hui, ce lagon d'exception est menacé. Taz a créé l'association Messo pour lancer l'alerte contre les pêcheurs braconniers de tortues. Sur son compte Facebook, on dénonce aussi les ordures qui s'entassent au bord de l'eau. Mais pour lui, c'est surtout par le biais de l'éducation au métier de la mer qu'il va convaincre les Mahorais de protéger leur île. Des habitants qui, curieusement, connaissent très peu leur lagon.
Une population qui n'est pas aquatique de nature, c'est des agriculteurs essentiellement. Où la base, c'est déjà de savoir nager. Donc un peuple qui ne sait pas nager a beaucoup de mal à comprendre le plaisir à faire de la plongée. C'est important de créer, je pense, des structures de formation où on puisse transmettre le savoir-faire qu'on a acquis depuis une dizaine d'années, de pas le laisser, en milieu fermé, ce qui est très dommage. Et puis d'un autre côté, c'est aussi la meilleure façon à la fois de sensibiliser et de faire comprendre la richesse qu'il possède.
Les rivières, le lagon et entre les deux, la mangrove, entre mer et terre, qui sert de filtre naturel pour la pollution et qui est elle aussi touchée. C'est à l'embouchure de la rivière Kwale que l'on retrouve Anil Akbarali, ingénieur du département chargé de la qualité des eaux. Aujourd'hui, son service commence à équiper l'île en poubelles spécifiques pour le tri, les trios. Mais l'île revient de loin et la transition ne peut pas se faire du jour au lendemain.
Avant, il n'y avait pas de bac poubelle. Jusqu'en 2005, 2006, 2007, les camions passaient, c'était pas les camions type qu'on voit en métropole, les camions de ramassage, c'était des petits camions plateaux et puis les déchets, ils étaient ramassés à la main. La plus grosse partie des déchets, c'était des déchets verts à Mayotte. Ils mangent beaucoup de manioc, de bananes, donc la production au niveau alimentation, c'était beaucoup de déchets verts. Et avec la société de consommation qui arrive à grands pas, on a justement tous ces déchets assimilés qu'on retrouve un peu partout. Et puis, jusqu'à présent, on n'avait pas de grosses décharges à Mayotte. C'était que des décharges non autorisées.
Aujourd'hui, l'île n'a que 2 stations d'épuration. Il en faudrait 5. L'urbanisation, la déforestation contribuent aussi au glissement de terrain et à l'envasement du lagon. Pour le sauver, il faudra faire vite, plus vite que la croissance démographique de l'île. La course est engagée.
Du quartier de Kaweni au lagon Émeraude de Mayotte, reportage de Frédéric Lebel, à retrouver en images sur la page d'Accent d'Europe avec un diaporama de Pierre-René Worms. Retour sur le continent européen, dans une ville un peu méconnue, Bratislava. La capitale slovaque s'est beaucoup transformée ces dernières années, avec de plus en plus de cafés et de restaurants dans la vieille ville, avec aussi la réouverture au public du vieux marché couvert, qui se transforme le soir venu en salle de concert. Alexis Rosenzweig est allé y faire un tour.
Un bel endroit pour échapper aux vicissitudes de la vie politique en cette période post-électorale mouvementée à Bratislava, ambiance conviviale avec une quinzaine de stands qui proposent des produits locaux, dont les fromages typiques et les vins du pays, et des produits plus exotiques, huile d'olive grecque ou sauce piquante de Louisiane. À l'étage du dessus, cuisine et plats traditionnels avec notamment les gnocchis slovaques appelés halouchki, mais pas seulement. Le coin pour enfants n'est pas loin, près du piano public et de quelques bouquinistes. Les habitants de la capitale slovaque ont repris l'habitude de venir faire leur marché et flâner ici depuis 2 ans seulement et la réouverture au public de cette bâtisse construite au début du siècle dernier. Sous le communisme, l'endroit avait été transformé en studio de télévision et cinéma et mis sous la tutelle du ministère de la Culture. Ce n'est que dans les années 90 qu'il a été rendu à la municipalité de la capitale sans projet précis. Il a fallu beaucoup d'énergie dépensée par une association locale pour obtenir de pouvoir louer le bâtiment et le rendre accessible au public. Beaucoup d'abnégation et de combats pour éviter que des promoteurs moins bien intentionnés s'emparent de ce bijou architectural au cœur de la vieille ville. Le pari semble aujourd'hui réussi. En plus des marchés hebdomadaires et des diverses foires, des concerts sont régulièrement organisés au Stara Tržnica, où vient de se dérouler la cérémonie de remise de l'équivalent slovaque des Victoires de la musique.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde Accent d'Europe. On se retrouve demain dès 17h40 dans l'Universel.